Bonsoir à toutes et à tous, c'est du grain à moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le monde a peur, car il semblerait que nous soyons désormais entrés dans l'ère de la cyberinsécurité. Deux attaques informatiques ont ainsi fait la une des journaux en 2 mois, WannaCry et Petya. Des ransomware ou rançongiciels, c'est-à-dire un virus qui bloque les ordinateurs et exige de l'argent en échange d'une clé de déblocage. Le premier a touché 150 pays pour 200 000 attaques, le second a affecté notamment l'installation nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, de quoi frapper les esprits. WannaCry et Petya ont d'abord été mis sur le même plan et l'on a donc commenté cette cybercriminalité en expansion. Mais Petya est devenu NotPetya. Finalement, le rançongiciel était un leurre. L'attaque visait à effacer des données, à semer le chaos. L'Ukraine, première et principale victime, a été prompte à dénoncer des pirates à la solde du pouvoir russe. Et voilà que ressurgit le spectre de la cyberguerre. Bref, tout se mélange. Cyberguerre, cyberattaque, cybercriminalité contribue au climat anxiogène qui se répand. On va tenter donc d'y voir plus clair ce soir. Est-ce que le cybercrime paie? C'est la question du grain à moudre d'été. Écoutez en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Et 3 invités pour nous mener dans ces sujets qui sont assez compliqués mais qu'on va tenter de rendre simples ou en tout cas intelligibles. Nathalie Devilliers, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Vous êtes professeur de droit à Grenoble, école de management. En face de vous, Daniel Ventre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, c'est le CESDIP, et vous êtes l'auteur d'un blog, e-conflicts, voilà, qui permet de suivre toutes ces questions. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, on en mettra un certain nombre sur la page du grain à moudre d'été. Et enfin, Jean-Marc Manac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé dans ces questions du numérique, d'internet et dans les questions de liberté et de vie privée, auteur d'un blog, vous aussi, Bug Brother, également auteur d'une bande dessinée, m'avez-vous dit, Grandes oreilles et bras cassés, voilà, sur des cyberattaques en bande dessinée. Ça nous permettra peut-être, ça permettra peut-être à nos auditeurs de continuer à s'informer et à comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, justement, de quoi parle-t-on vraiment? Je l'ai cité, ces deux attaques, WannaCry et Petya, devenues NotPetya. Est-ce qu'on sait un petit peu de quoi il s'agit? On en a beaucoup parlé au moment où c'est arrivé. On en a peut-être plus trop entendu parler ensuite. Est-ce que vous pourriez nous faire d'abord, Jean-Marc Manac, peut-être la définition de ce qu'ont été ces deux attaques par rançongiciel? Enfin, c'est ce qu'on pensait au début, en tout cas pour Petya. De quoi on parle exactement et quel a été l'impact véritablement?
C'est marrant parce que vous avez commencé en disant « le monde a peur ». Et je pense que c'est de ça dont il s'agit. C'est ça, rien de nouveau. Le fait qu'il y ait des virus, qu'il y ait ce qu'on appelle des malwares, des logiciels malveillants, même si en l'espèce WannaCry et NotPetya, il y a quand même des choses, quelques éléments nouveaux à l'intérieur. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur médiatique que ça a pris. C'est-à-dire qu'à la fois dans WannaCry et dans NotPetya, ça a fait la une des médias pendant 2 jours. Et après, quand au bout de 3, 4, 5, 6 jours, on a commencé à en savoir un peu plus sur ce que c'était et que la baudruche a commencé à se dégonfler, et ben là, on n'a plus du tout entendu parler. Donc là, on a eu pendant quelques jours, il y a 15 jours au moment de NotPetya, cyberattaque mondiale. Et quand une semaine après, on a découvert que c'était 20 000 machines qui avaient été infectées, que ces 20 000 machines étaient toutes connectées directement à l'Ukraine, soit c'était des machines en Ukraine, soit des machines d'entreprise ou d'administration qui faisaient du business avec l'Ukraine, et ben là, plus personne n'en a entendu parler. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça devient un nouveau marronnier. C'est-à-dire qu'effectivement, on en entend de plus en plus parler, donc les médias vont en parler, sans savoir exactement de quoi il en retourne. Et en l'espèce, au tout début, le jour où l'attaque est déclenchée, par essence, on ne peut pas savoir de quoi il en retourne. Il faut attendre au minimum 3-4 jours pour avoir des éléments d'appréciation.
Mais alors, pour bien comprendre, la communication fait donc partie de l'attaque en quelque sorte. Est-ce que c'est un but recherché par ce qu'on peut appeler les hackers, les pirates, je sais pas, Daniel Ventre, je sais pas si vous voulez répondre.
Oui, la communication sur l'acte, c'est un effet, je veux dire, de recherche promotionnelle un petit peu. On va se vendre son image de marque. Le problème, c'est que derrière, on ne sait pas qui encore est vraiment derrière ces opérations-là. Et l'effet médiatique, il est quasi naturel. Les médias se saisissent de la chose. Et puis quand on ne sait pas trop de quoi il ressort, effectivement, le discours s'emballe d'autant plus facilement, je dirais. Mais cette dimension médiatisation est vraiment pas nouvelle non plus. C'est certes il y a un discours sur le monde de la peur aujourd'hui, mais rappelons-nous, ça remonte à, il y a déjà, je dirais, une bonne dizaine d'années. l'affaire Stuxnet, enfin, et puis ensuite, juste avant, les attaques contre l'Estonie. Il y a eu un gros brassage médiatique autour de ces opérations. Effectivement, comme le dit notre collègue ici, on ne peut pas, en 2-3 jours, donner une analyse de la situation. Dans le cas des attaques contre l'Estonie, ça a été plusieurs mois d'enquête pour savoir ce dont il s'agissait vraiment. Et puis pour Stuxnet, de la même manière, il a fallu des mois, des révélations, etc. Et même aujourd'hui, on n'a pas toutes les ficelles de l'histoire.
Donc, alors par exemple, WannaCry, ça fait plusieurs mois. C'était, je crois, au mois d'avril que cette attaque s'est déroulée. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur cette attaque par rançongiciel?
On n'en sait pas vraiment beaucoup plus, parce qu'on pense, Jean-Marc Manac, mais on n'en sait pas vraiment beaucoup plus aujourd'hui, en fait.
Ce qu'on sait, c'est que si c'était réellement un rançongiciel, c'est donc un logiciel malveillant qui va chiffrer l'intégralité des données sur votre disque dur, et il faut payer une rançon pour pouvoir déchiffrer les données qui ont été chiffrées. Ce qu'on sait, c'est que en matière de business, ça a très mal fonctionné parce qu'ils ont gagné très peu d'argent. Et que donc, on ne sait pas si c'était voulu ou pas. Et une des hypothèses, c'est qu'en fait, le logiciel espion aurait commencé à se propager d'ordinateur à ordinateur alors même qu'il n'était pas encore finalisé. Ce pourquoi il n'a pas fonctionné. Et après, on a, en matière d'attribution, un certain nombre d'éléments laissent entendre qu'il y a des liens avec d'autres logiciels malveillants qu'on avait précédemment identifiés qui étaient liés à la Corée du Nord.
Alors justement, Nathalie Devilliers, ça vient d'être dit par Jean-Marc Manac, ça a très peu rapporté, quelques milliers de dollars donc pour WannaCry. Est-ce que le cybercrime paye, c'est comme ça qu'on a intitulé notre émission, pour même se demander, est-ce que c'est le but finalement?
Tout à fait. Quand on voit l'ampleur par exemple de WannaCry et le fait qu'on demande une rançon en Bitcoin qui au final ne rapporte pas beaucoup d'argent, enfin, toute chose égale par ailleurs. On aurait pu aussi imaginer que les instigateurs demandent une rançon certes sur une monnaie virtuelle, mais sur une monnaie anonyme telle que Zcash ou Monero, pourquoi pas. Là, ils demandent des bitcoins et puis au final, ça rapporte pas tant que ça vu la proportion de l'attaque.
Oui, quelques milliers de dollars pour l'effort fourni. J'imagine que ça ne se crée pas en quelques instants.
En tout cas, mon interprétation, c'est que donc au regard de Petya or not Petya, WannaCry, l'attaque également qu'il y a eu sur Amazon, Spotify, eBay et Twitter, c'était en octobre 2016. Je mets ça aussi dans le tableau. J'ajoute également au tableau la faille majeure qui a été révélée par Yahoo, qui avait duré plusieurs années avant d'être portée à l'attention du public. J'ai un peu l'impression qu'on est victime d'expérimentation, d'une sorte de laboratoire, du tuning de l'expérimentation du code, et que ça s'inscrit dans une trajectoire qui aurait peut-être alors pour but, je ne sais pas, de tester la résilience des infrastructures et les réactions qui sont mises en place à la suite de ces attaques.
Mais si on est victime, c'est qu'il y a un coupable, si vous me passez l'expression, Nathalie Devilliers. Est-ce que là, dans cette entreprise pour tester la résilience des réseaux, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on peut désigner un coupable, avoir une idée? Ce que je veux dire par là, c'est sans dire qui exactement, au moins quel type d'entité. Est-ce que c'est des entités étatiques? Est-ce que ce sont plutôt des criminels en marge des États? Est-ce qu'on a une petite idée?
Je me garderais bien d'imaginer quoi que ce soit. Je constate tout simplement que ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, et y compris, alors on l'a bien compris, il s'agit d'argent, il s'agit d'État, il s'agit d'entreprise. On sait parfaitement que dans le domaine de la cyberdiplomatie, tous ces éléments s'articulent de manière assez complexe.
Ouais, on va y revenir,
s'inscrit dans un contexte très très large.
Alors justement, c'est un facteur peut-être qui explique aussi la raison pour laquelle les médias se sont emparés récemment de ce type d'affaires. En tout cas, là en l'occurrence, ce qui a rapproché WannaCry et Petya, c'est qu'ils exploitaient la même faille dans Windows, une faille appelée Eternal Blue. Et ce qu'il y a de particulier avec cette faille, c'est qu'on en connaît l'existence par le biais de pirates informatiques nommés Shadow Brokers qui l'ont révélé au public, et surtout ils l'ont révélé parce qu'ils l'ont piqué, ils l'ont shippé à la NSA. Et donc on a découvert à cette occasion-là que donc la National Security Agency, l'agence de renseignement américaine qui s'occupe de toutes ces questions-là, connaissait cette faille et l'exploitait à son propre compte. Vous m'arrêtez si j'ai trop simplifié ou si j'ai dit n'importe quoi les uns ou les autres, mais bref, c'est vrai que on se croirait dans une série américaine. Et c'est vrai que ça ajoute peut-être aussi au fantasme et à cette peur qu'on décrivait Jean-Marc Manac au début de l'émission.
Les Shadow Brokers, c'est un film de Groucho Marx. Enfin, c'est hallucinant cette histoire. Et c'est clair que pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est malware, etc., on vit des moments passionnants parce qu'il se passe énormément de choses. Pour revenir sur votre question tout à l'heure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, il y a un business des malwares. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça, en ciblant des particuliers, des entreprises, en ciblant des hôpitaux. C'est des gens qui sont des escrocs. C'est pas tant pour moi des criminels que des délinquants. Je préfère parler de cyberdélinquance que de cybercriminalité. Il y a beaucoup plus de délinquance que de criminalité. Donc il y a ce business qui existe. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a aussi un certain nombre d'acteurs étatiques, la NSA en tête, mais pas que, les Russes, les Chinois, la Corée du Nord, les Français aussi, les Allemands, les Britanniques, qui se sont lancés dans le développement de logiciels espions. Donc Stuxnet, c'était donc ce logiciel qui a fait exploser des centrifugeuses en Iran, centrifugeuses nucléaires. Et là, ce qu'on voit avec WannaCry et NotPetya, c'est effectivement des bouts de code qui viennent du business des délinquants qui font ça pour cibler des particuliers, qui sont uniquement attirés par l'appât du gain. Et puis avec potentiellement des acteurs étatiques qui, comme on l'a vu avec NotPetya, visent à déstabiliser l'Ukraine. Et donc, il y a une convergence comme ça, sachant que, et ça on avait vu aussi du côté du piratage de l'Estonie il y a quelques années, des fois, des acteurs étatiques peuvent aussi instrumentaliser ou payer ou contrôler des gens qui sont du privé, qui viennent de la délinquance, mais qui commencent à travailler pour des services de renseignement ou pour des militaires, parce qu'ils ont des compétences que n'ont pas forcément en interne les militaires en question.
Daniel Ventre, sur cette confusion finalement des rôles, acteurs étatiques, sociétés de protection informatique, hackers, services de renseignement, que sais-je, tout ça se mélange, ce sont un peu les mêmes personnes ?
Non, pas du tout, ce ne sont pas les mêmes personnes. Je dirais, un criminel n'est pas un acteur étatique non plus. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens se mélangent. Enfin, on le voit avec Stuxnet, on le voit aujourd'hui avec, vous rappeliez, les fuites finalement de trouvailles de la NSA qui se retrouvent entre les mains de hackers. On ne sait pas s'ils sont criminels ou étatiques, enfin peu importe. Mais ça veut dire que les uns travaillent, puis ensuite une absence de maîtrise finalement de leurs objets qui se retrouvent dans la nature, et d'autres les exploitent, etc. Et ensuite, c'est la même confusion pour les interprétations. On a là, pour NotPetya, une concentration apparente des attaques qui touchent l'Ukraine, mais ce n'est qu'une concentration apparente. On avait le même schéma, je dirais, de pensée ou de représentation avec Stuxnet. Au départ, on pensait que c'était l'Iran, mais ça touchait aussi beaucoup de pays. La Chine était touchée, Cuba, la France, les États-Unis avaient des parties de Stuxnet. Donc, on avait des difficultés à faire une interprétation. Et l'interprétation est très difficile parce qu'effectivement, on a des acteurs qui, dans les fonctions, les objectifs peuvent se croiser à un certain moment. Puis, sur l'espace géographique, ça se croise ou ça floute beaucoup la lecture, en fait. On a beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il faut du temps pour interpréter les choses, je pense. Et on ne peut pas en 3-4 jours avoir une interprétation définitive de la chose.
L'expression qui m'a particulièrement énervé, mon autre pétier de cyberattaque mondiale, pour moi, ça ne veut rien dire. Mmh. L'Internet, c'est l'interconnexion des ordinateurs, quel que soit le pays où ils se connectent. Donc, par définition, quand un ver est lancé, un logiciel malveillant est lancé, et ben oui, par définition, il va toucher différents pays. Donc, ce n'est pas mondial. Et en l'espèce, on a découvert depuis que ça visait l'Ukraine.
Alors c'est peut-être cette confusion, ce qui fait dire à Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, donc en France, que la cybercriminalité devient une question de sécurité nationale. Il s'exprimait, c'était juste il y a quelques mois après WannaCry, au micro de France Inter, et voici ce qu'il disait.
D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une attaque informatique ? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au niveau de l'ANSSI, on en traite une vingtaine par an. Une vingtaine d'attaques, ça veut dire des attaques extrêmement graves qui touchent le potentiel économique de la France, qui touchent notre sécurité nationale, donc des choses extrêmement graves qui touchent au cœur, d'une certaine manière. Et puis après, des attaques périphériques, un site internet qui est bloqué, un site internet qui est modifié, défiguré, comme on dit, c'est également une attaque informatique. Aujourd'hui, heureusement, il y a pas de mort directe liée à des cyberattaques. Et on les espère pas, c'est une évidence. Mais il y a un lien assez fort entre ce cyberespace qui peut paraître très éthéré, très numérique, tout ça peut paraître assez virtuel, et la réalité concrète aujourd'hui. Notre peur, ce sont des attaques qui viseraient des systèmes bien réels, des systèmes de transport, des systèmes de production d'énergie. Imaginez, vous coupez l'électricité dans un hôpital, il y aura des morts. Alors, indirect, certes, mais il y aura des morts. Malheureusement, les scénarios sont extrêmement multiples, et dans tous les secteurs que l'on appelle d'importance vitale, tous ces systèmes sont des cibles, et il faut vraiment les protéger, parce que soit les terroristes vont les attaquer directement, soit ils vont trouver des sortes de cyber-mercenaires qui feront le travail pour eux, et ça, malheureusement, ces mercenaires, on voit, ils existent aujourd'hui, et un jour, malheureusement, les terroristes vont être capables d'acheter leurs services, c'est peut-être déjà le cas, et à ce moment-là, on aura une capacité d'attaque informatique contre nos intérêts vitaux, et c'est ça qu'il faut impérativement protéger.
Et je me rends compte que j'ai même pas prononcé le mot de cyberterrorisme, si ça, c'est pas pas anxiogène aussi, le cyberterrorisme.
Vous avez bien fait, ça n'existe pas, le cyberterrorisme.
Alors, j'aimerais entendre Nathalie Devilliers réagir, non pas parce qu'on a parlé, Guillaume Poupard parlait des hôpitaux et que vous connaissez particulièrement bien ces questions-là, mais oui, pour réagir plus largement à cette réflexion menée donc par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des informations.
Alors, pour finir de faire peur à tout le monde, vous pouvez vous brancher sur Nors ou sur Kaspery pour voir une carte live de toutes les cyberattaques. On a l'impression que c'est WannaCry tous les jours. Et dans le domaine de la santé, effectivement, on a en moyenne 4 attaques par jour, ça en fait 1500 par an. Et finalement, faire une cyberattaque dans ce secteur-là, c'est finalement aussi un jeu d'enfant, paradoxalement, alors que les données de santé sont particulièrement sensibles.
Mais des attaques, pardon, pour récupérer des données justement de particuliers ou pour éteindre l'électricité dans un hôpital, comme le dit Guillaume Poupard.
Alors, il y a un premier type d'attaque, ce serait donc bloquer le fonctionnement de l'hôpital, capturer les données des patients et donc obtenir de la même manière une rançon en contrepartie. Ça a été le cas, 9 millions de dossiers de patients américains, $450 000 en échange. Donc, première étape. Deuxième étape, c'était le cas du centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Capturer les données des salariés de ces institutions de soins. Donc 2400 salariés ont été visés par cette attaque. Et troisième attaque qui est en lien direct avec ce que disait M. Poupard, l'absence de sécurité des objets connectés, par définition, très souvent. Je parle sous le contrôle de mes collègues. Un objet connecté à un code de sécurité qui est inscrit apparemment dans le dur, très souvent 4.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'utilisateur ne peut pas le modifier, ne peut pas y avoir accès, ne peut pas le sécuriser. Or, ces objets connectés sont des vecteurs d'attaque, ce sont des instruments de rebond dans le cadre d'une cyberattaque, et on pourrait tout à fait imaginer qu'on accélère un pacemaker à la rupture, qu'on utilise une pompe d'insuline pour une surdose. Donc peut-être qu'on pourrait isolément tuer quelqu'un. Oui, on a vu ça dans des épisodes d'NCIS, mais peut-être qu'on pourrait aussi faire peur à beaucoup de monde avec ce type d'éléments. Donc oui, il y a des vulnérabilités qui sont connues, mais elles ne sont pas colmatées.
Elles ne sont pas colmatées, elles sont exploitées ou pas? Parce que vous disiez, Jean-Marc Manac, qu'il n'y a pas de cyberterrorisme.
Ah oui, je voulais revenir là-dessus, parce que ça peut paraître un peu brutal. Les terroristes utilisent Internet pour faire de la propagande. Ce n'est pas des billes en sécurité informatique, ce n'est pas des hackers, comme disait Poupard. Pour l'instant, ça veut dire qu'ils ne sont pas. Mais en l'espèce, aujourd'hui, il n'y a pas de cyberterrorisme, au sens où les attaques... On a eu le cas Stuxnet, où il y a eu des destructions physiques. C'était l'exception qui confirme la règle, sauf que c'était les services de renseignement américains et israéliens qui étaient derrière. Pour l'instant, les terroristes, ils font beaucoup plus de dégâts avec des kalachnikovs qu'avec des virus. Et en l'espèce, on n'a pas encore vraiment identifié d'attaques émanant de terrorisme. Après, pour revenir sur ce que vous disiez sur les hôpitaux, on a effectivement aujourd'hui déjà des cas de pacemakers qui ont été piratés. Alors c'était des proof of concept, qu'on dit, des preuves de concept. C'est pas des gens qui portaient les pacemakers qui ont été attaqués. Mais à partir du moment où on dépend de plus en plus de l'internet des objets, où on met de l'internet dans de plus en plus d'objets, ben c'est clair que là on risque le risque d'avoir des morts ou d'avoir des dégâts physiques augmente au fur et à mesure qu'on met que se développe l'IoT, et parce que effectivement c'est un des problèmes. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que Microsoft enfin commence à se pencher sérieusement sur la sécurité informatique, alors que les micro-ordinateurs c'est des années 80. Et ben là, en matière d'IoT, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme depuis des années, parce que les boîtes qui se lancent dans l'IoT n'engagent pas forcément des hackers, n'engagent pas forcément des experts en sécurité informatique pour arriver à sécuriser. Et je finirai un dernier point là. Dessus, il y avait toute une campagne qui avait été faite par une Italienne il y a 2-3 ans. Elle disait: rendez le code source des logiciels médicaux disponibles, parce que si vous ne rendez pas le code source disponible, on ne sait pas s'il y a des failles de sécurité à l'intérieur, et moi je ne peux pas vivre avec une boîte noire qui fait office de cœur, parce que si c'est une boîte noire, je n'ai pas le contrôle.
Nathalie Devilliers voulait réagir.
Oui, il y a deux grands enjeux autour de l'Internet des objets. Pour moi, quand j'entends smart, maintenant j'ai compris vulnérable. En réalité, on peut prendre le contrôle de l'objet, ça s'appelle du piratage. On l'a vu avec des thermostats, par exemple, avec une rançon en bitcoin qui était opérée. Et puis d'un autre côté, une perte de maîtrise des données. Donc là, c'est de l'espionnage. Et ça, c'est l'exemple, par exemple, des poupées connectées, des ours connectés, des sextoys connectés. Vous envoyez de l'information à travers les permissions de l'application ou de l'objet connecté en permanence. Et donc finalement, ça peut se recroiser. En tout cas, ces deux enjeux se rejoignent en termes d'espionnage et de piratage grâce, entre guillemets, malheureusement, aux objets et à leurs connexions. Et alors, le nombre de connexions d'objets avec 7 milliards d'objets connectés.
Daniel Band.
Oui, on a eu récemment aussi une attaque médiatisée qui passait par cet Internet des objets, et c'est les réseaux de webcam aux États-Unis.
Les vidéosurveillances.
Les vidéosurveillances qui ont été utilisées pour paralyser une partie de l'Internet nord-américain, et ce, à quelques jours des élections présidentielles. Vous voyez, donc il aurait pu y avoir là aussi, imaginons la même situation le jour des élections, par exemple. Donc ça pourrait avoir des conséquences assez importantes.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
Si vous n'êtes pas mort de peur, fou d'angoisse, caché sous votre couette, vous écoutez Du grain à moudre d'été, une émission sur le cybercrime ce soir. J'espérais alléger un petit peu justement cette angoisse qui s'est répandue à l'occasion des attaques WannaCry et Petya récemment, mais je me rends compte qu'en fait c'est bien plus profond et bien pire que ce que je pensais en vous écoutant les uns les autres. Nathalie Devilliers, je rappelle que vous êtes professeur de droit à Grenoble École de Management. Daniel Ventre, vous êtes ingénieur au CNRS et chercheur au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, spécialiste de ces questions de cybercriminalité. Et enfin, Jean-Marc Manac, journaliste spécialisé aussi dans ces questions. Peut-être, Nathalie Devilliers, évoquer le cadre légal qui encadre tout ça, parce que tout ce dont on parle là, ça existe, et donc c'est aussi encadré. Alors, est-ce qu'il faut aussi là confondre le cadre pour la cybercriminalité, le cadre pour les attaques cyber, on va dire de cyberguerre, et donc qui peuvent être prises en charge d'un point de vue international? Est-ce que là aussi on a une forme de confusion?
Alors, on a naturellement plusieurs agences, que ce soit au niveau international, ensuite au niveau des régions du monde et ensuite au niveau des États, qui vont se recouper sur différents axes, effectivement. Et à ceci, il faut ajouter finalement, depuis 2014, un mélange des genres, puisque les sociétés transnationales, les GAFAM, essayent de s'imposer comme acteurs de la cyberdiplomatie.
Donc il faut rappeler Google, Apple, Facebook, Amazon et donc Microsoft.
Pour le faire. Donc effectivement, on a un premier outil multilatéral qui est un traité, c'est la Convention de Budapest sous l'égide du Conseil de l'Europe, qui a été signée en 2001, qui entre en vigueur en 2004 et qui compte à ce jour 53 États signataires, dont les États-Unis, mais pas la Fédération de Russie ni la Chine. Et ensuite, on a au sein de l'ONU mis en place, grâce à une résolution de l'Assemblée Générale, un groupe d'experts gouvernementaux qui réunit tous ces acteurs justement et qui a affirmé à partir de 2013 que le droit international, la charte de l'ONU, tout ce qui relève de la non-ingérence et des droits de l'homme s'applique au cyberespace. Déjà pour poser cette base-là, donc on est encore en phase de recherche. On a connu également une étape importante en 2015 avec des normes un peu plus explicites. Mais ce groupe qui a négocié dernièrement au mois de juin s'est totalement effondré puisque la réunion du mois de juin s'est clôturée sur un constat du mois de juin, oui, du 19 au 24 juin. Ce groupe s'est finalement clôturé sur un constat d'échec, puisque d'un côté, certains prônent des normes non contraignantes, c'est-à-dire un code volontaire, donc c'est le cas de l'Organisation de la coopération de Shanghai, d'un autre côté, donc les États-Unis, il faut bien le dire, considèrent que on ne va pas laisser ça finalement dans la sphère de l'ONU, et qu'on procédera certes par voie de notes diplomatiques si jamais on a un problème, mais que on ne se privera pas d'apporter des sanctions économiques, et y compris en termes de connectivité. Moi, ça me rappelle l'étape du droit international économique, quand on n'avait pas l'Organisation mondiale du commerce pour régler les différends et qu'on faisait des rétorsions croisées. C'est tout à fait ce qui se produit maintenant, déjà dans un premier temps. Donc, retour au Far West, mode cyber, et puis mélange des genres, car quand Microsoft en 2014 nous propose une convention de Genève du numérique, quand la Chambre de commerce internationale obtient un statut d'observateur à l'ONU et que le Danemark nomme un ambassadeur des GAFA, on comprend que ces GAFAM obtiennent finalement un point d'équilibre qu'ils recherchent vis-à-vis des États.
Pour préciser ce que vous venez de dire sur le Danemark, c'est donc que le Danemark a nommé un vrai ambassadeur, un physique, une personne, dans la Silicon Valley, pour représenter les intérêts du Danemark et avoir une relation diplomatique avec donc des acteurs économiques privés qui deviennent donc un peu comme des acteurs étatiques. Jean-Marc Manac, est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui que ces GAFAM, il faut partie quoi de la solution, du problème des deux, on peut leur faire confiance confiance pour assurer la sécurité, établir des normes internationales.
Alors, ça me permet de revenir sur Prism. Donc Prism, c'était la deuxième révélation Snowden, où on avait une slide donc qui montrait que Google, Amazon, enfin les GAFAM et compagnie, collaboraient avec la NSA. Ça a été traduit dans le grand public par la NSA, un accès direct à l'intégralité de toutes les données de tous les utilisateurs de Google et compagnie, ce qui est complètement faux. En fait, on a découvert après coup, quand on a eu d'autres slides de la NSA concernant Prism, qu'en fait Prism c'était l'acronyme utilisé en interne au sein de la NSA pour demander au FBI d'aller faire toc-toc chez Google, Apple et compagnie pour demander les données de tel ou tel utilisateur en particulier. Et que ça concernait entre 10 000 et 20 000 personnes tous les 6 mois. Donc c'est pas du tout un espionnage généralisé. Sauf que, comme ça a été perçu comme un espionnage généralisé de l'ensemble des utilisateurs des GAFAM par la NSA, et ben depuis, on a Google, Apple, un peu Microsoft, qui sont en fight contre les autorités américaines pour défendre leurs utilisateurs. Et donc aujourd'hui, on a considérablement augmenté la sécurisation de nos données depuis avant Snowden, paradoxalement, parce qu'ils ont voulu jouer patte blanche. Et pour en revenir sur la Convention de Genève, c'est clair qu'aujourd'hui, comme il y a une militarisation de l'Internet, il y a de plus en plus d'espions et potentiellement de cyberguerres qui vont se mener sur Internet, de plus en plus d'acteurs réclament une Convention de Genève pour que ça ne puisse pas se retourner contre les civils. Et ça, c'est très important. Et je finirai là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que à l'inverse de la surexposition médiatique qui a eu autour de WannaCry et de NotPetya, ce que ne racontaient quasiment pas les médias, c'est que les particuliers n'étaient pas ciblés. C'était uniquement les entreprises et les administrations qui ont été ciblées par WannaCry et par NotPetya, et que tous les utilisateurs, pour reprendre du système d'exploitation Microsoft, qui avaient mis leur logiciel à jour, Microsoft avait sorti le patch qui permettait de se protéger de ces deux attaques en février. Donc bien avant. Donc on a eu énormément d'articles dans les médias qui laissaient entendre que c'était la cyberguerre, le monde a peur, alors qu'en fait les particuliers n'étaient pas ciblés.
Daniel Ventre.
Moi, je dirais à toutes ces questions, effectivement, la première des solutions, elle est technique, malgré tout. On peut faire du droit derrière pour réduire tout ce volume de problématiques d'attaque. Une attaque, c'est une opération technique, même s'il y a de la stratégie, de la tactique, des volontés politiques, des volontés de gagner de l'argent et autres. S'il y a des failles, c'est parce qu'elles sont techniques. Donc, les solutions, elles sont d'abord techniques. Ensuite, faire de la régulation, je pense que du droit, on sait faire, on a su faire. Au niveau nationaux, effectivement, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la criminalité, puis ensuite, si on passe à l'acte, l'opération étatique de renseignement, très difficile d'aller réguler ce genre d'action sur la scène internationale, dès qu'il s'agit de renseignement. Et si on passe à des actions militaires dans un cadre de conflit armé, on est à un autre niveau du droit.
Encore une fois, je vais insister, mais on peut vraiment séparer ces différentes dimensions criminelles, militaires, étatiques.
Certainement, on est obligé. On est obligé, ne serait-ce que pour envisager les réactions, ce qu'un État peut légitimement faire dans le cadre de sa réaction. Est-ce qu'il va aller jusqu'à poursuivre physiquement rechercher physiquement les individus? Est-ce qu'il va s'autoriser des attaques, des contre-attaques par les réseaux ou d'autres voies diplomatiques, ou simplement poser ça au niveau de la criminalité, de la coopération des polices et de la justice, et au niveau de la recherche, comme on recherche des délinquants ou des réseaux de criminels habituels, c'est-à-dire une façon aussi de faire baisser la tension et d'agir à un autre niveau. Par contre, là, il se pose quand même un certain nombre de difficultés. On a certes des cadres juridiques, mais avoir du droit, c'est pas suffisant. Il faut avoir des moyens pour les polices qui travaillent. Ensuite, aujourd'hui, les polices en matière de cyber, elles peuvent pas courir tous les lièvres des attaques, il y en a tous les jours. Et donc, ça coûte cher, ces enquêtes internationales. Donc, on peut pas tout faire.
Des questions techniques, donc, des choix stratégiques aussi, puisque Jean-Marc Manac, vous citiez Edward Snowden, il a très vite réagi sur son compte Twitter à la dernière attaque, en disant, en quelque sorte, on paye aussi un choix, une orientation de la NSA, qui a choisi de développer ses capacités d'attaque, mais n'a pas développé les capacités de défense véritablement, donc notamment en sécurisant, je sais pas, les réseaux informatiques, les infrastructures. Est-ce qu'on peut faire ce procès? Edward Snowden, il a raison de faire ce procès à la NSA?
En partie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que répond la NSA à ça, c'est de dire que 91% des failles de sécurité identifiées par la NSA sont notifiées aux éditeurs de logiciels. Ils en gardent 9%. Pour pouvoir s'en servir pour leur propre logiciel espion. Donc ça, c'était avant le début des révélations Snowden, et c'était avant que les shadow brokers commencent à rendre public des logiciels espions de la NSA. Ce que je sais, c'est que, si je prends un autre exemple, c'est Monsieur Barbier, qui était le directeur technique de la DGSE, donc avant les shadow brokers, il avait expliqué dans une interview que une des différences entre une arme létale et une arme informatique, c'est qu'une arme létale, quand vous balancez une bombe, elle explose. Vous pouvez pas la réutiliser. Quand vous l'envoyez un logiciel espion dans un ordinateur, il peut être intercepté par un service de renseignement étranger, chiffrés, voire par des éditeurs d'antivirus, décortiqués et être réutilisés à ce qui s'est passé avec Petya, ce qui s'est passé avec les logiciels espions des Shadow Brokers, ce qui fait que les services de renseignement sont extrêmement précautionneuses avant d'utiliser un logiciel espion sur une cible, parce qu'elles ne veulent surtout pas que ça puisse être identifié et réutilisé par des acteurs tiers, parce que bah voilà, un logiciel espion, ça n'explose pas comme une bombe. Après, on peut le faire détruire, et c'est très rare d'arriver à trouver les traces d'un logiciel espion étatique, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus prudents que ne le sont les cybercriminels, ou eux, les cyberdélinquants, les escrocs, eux, leur logique, c'est d'arriver à avoir le maximum d'ordinateurs contaminés pour arriver à se faire un maximum de blé.
Il faut dire aussi que quand on est en position de défense, on doit contrôler toutes les failles, alors que quand on est en position d'attaque, on a juste à trouver une faille à exploiter. Donc c'est vrai que c'est peut-être
plus... Juste pour revenir sur la France par rapport à la Grande-Bretagne, il y a eu un choix politique, parce qu'on parle pas de beaucoup de politique, mais c'est fondamental. Il y a eu un choix politique qui a été fait en Grande-Bretagne de ne pas mettre les ordinateurs des hôpitaux à jour. Donc ça, c'est un choix économique. Ils ont dit non, c'est pas la priorité. Résultat, en France, on n'a pas eu d'hôpital qui ont été contaminés par WannaCry. En Grande-Bretagne, il y en a eu une vingtaine. Donc ça, c'est la responsabilité des politiques, et ça, c'est extrêmement important en matière de cyberdéfense. On a l'ANSSI qui, effectivement, est monté en puissance ces dernières années. Il n'y a pas vraiment l'équivalent en Grande-Bretagne de l'ANSSI, et c'est clair que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ils ont mis l'accent sur l'attaque plus que sur la défense, alors qu'en France, on sait qu'il y a l'accent sur l'attaque, mais il y a aussi un gros accent sur la défense.
Nathalie Devilliers, c'est votre constat aussi, cet accent mis sur la défense et l'importance de le faire?
Oui, tout à fait. Et puis, en parlant donc de la cybersécurité dans le domaine de la santé, on est en train de mettre en place, alors là, toujours pareil, on a toute une série de dispositifs dans les régions avec les agences régionales de santé, avec les groupements hospitaliers de territoire qui ont été instaurés par la loi de modernisation de notre système de santé. Mais tout ça prend du temps, il faut former les personnes, il faut avoir du matériel performant, et au regard des entreprises, donc aussi d'une manière plus large, ces attaques peuvent quand même avoir le mérite d'alerter les entreprises qui ne sont pas frappées directement aussi. Par exemple, d'identifier des points d'exposition aux menaces, parce qu'il y a, je pense, dans beaucoup d'entreprises, un déficit de vision long-termiste en termes d'intelligence économique, et que du coup, on peut tirer les leçons et peut-être s'inspirer d'exemples tels que Siemens, qui publie des bulletins de vulnérabilité, et qu'on fasse prendre conscience aussi aux entreprises que la cybersécurité, ok, depuis tout à l'heure, on a un discours négatif, mais c'est aussi un vecteur positif de pouvoir justement rassurer, rapporter de la confiance, qui est un mot qui a pas été prononcée. La confiance se gagne, elle se décrète pas. Et donc, avoir cette transparence vis-à-vis des consommateurs, des actionnaires, ça peut aussi avoir un impact.
C'est important que vous prononciez ce mot de confiance. Si vous ne l'aviez pas fait, je l'aurais fait, car Daniel Ventre, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est aussi ça qui est attaqué par les hackers. C'est la confiance, et notamment, on peut se dire, dans une opposition, par exemple, entre la Russie et les États-Unis. Vous rappeliez les attaques contre l'élection américaine. C'est la confiance des citoyens dans leur gouvernement, et peut-être même la confiance des habitants de démocratie à la démocratie. Démocratie par rapport à des personnes qui vivent dans des régimes, on va dire, plus autoritaires.
Moi, je dirais que toutes ces opérations cyber ont plusieurs effets. Je ne suis pas certain que attaquer la confiance soit le premier des objectifs du hacker qui recherche effectivement à gagner le maximum d'argent. Ce n'est pas nécessairement ça. Effectivement, non, ça a plusieurs effets, des effets secondaires. Effectivement, ça peut réveiller les consciences aussi. Puis, il y a une tendance, de manière générale aussi, à lire tout ça de manière très négative. Effectivement, depuis le début, on ne fait que ça, le début de l'émission. Mais on peut toujours apporter aussi une lecture plus optimiste. On peut se dire, après tout, que finalement, NetPetya n'a pas touché autant de machines que ça, et que le reste du système et des machines et des réseaux sont plutôt bien sécurisés aussi. Donc on peut toujours aussi avoir une double lecture de toutes ces affaires.
Un peu d'optimisme, Jean-Marc Malac. Fait.
Non, mais moi, c'est ce que je retire à la fois de WannaCry et de NotPetya, c'est que non, il faut pas avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est quand je disais que c'est un monde passionnant qu'on est en train de vivre, parce qu'il se passe énormément de choses, que ça va extrêmement vite, et donc c'est vachement intéressant à suivre. Mais moi, j'ai pas peur. Si je prends les révélations Snowden, par exemple, moi, la révélation Snowden a contribué à me rassurer. Parce qu'avant, je savais pas ce que faisait la NSA. Maintenant, j'en sais un peu plus. Et ce que j'ai pu voir dans les documents de la NSA, c'est qu'ils sont bien plus contrôlés qu'on ne le croit. Et moi, les révélations Snowden m'ont rassuré. Là, ce ce qui s'est passé quand j'ai commencé à m'intéresser à NotPetya, j'ai aussi été rassuré parce que c'était pas une cyberattaque mondiale. Et à ce titre, en matière de confiance, restons la confiance, c'est il y a très peu d'articles qui ont répété que si vous appliquez les mises à jour de sécurité sur votre ordinateur, si vous faites une sauvegarde externe régulièrement sur un disque dur externe et que vous le mettez dans un endroit qui est déconnecté d'internet à intervalles réguliers, même si vous avez un ransomware sur votre logiciel, c'est pas grave, vous réinstallez votre système d'exploitation et vous avez vos données qui sont à côté. Ce qu'on appelle la résilience. On parle beaucoup de résilience en matière de terrorisme, il faut aussi en parler en matière de cybersécurité. Et un dernier point, c'est je suis pas d'accord avec le terme de hacker. Tous les terroristes djihadistes se réclament de l'islam, ça fait pas de tous les musulmans des terroristes. Et tous les hackers, c'est un état d'esprit, c'est une façon de procéder. Et donc il y a une infime minorité de hackers qui effectivement sont du côté obscur de la force et sont des délinquants, mais la quasi-totalité des hackers sont là pour sécuriser les systèmes. Et je pense que cette diabolisation qu'on a autour de ces cyberattaques, cette peur qu'on a, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est parce que pendant des années on a diabolisé les hackers. À chaque fois, c'est simple, regardez un reportage à la télévision ou un article dans la presse, à chaque fois qu'on a le mot attaque ou pirate informatique ou hacker, on voit quelqu'un avec une capuche, des gants, des lunettes de soleil, en train de taper la nuit devant son ordinateur. Le fameux hacker à capuche. Je connais pas de hacker qui met des lunettes de soleil et des gants pour taper sur leur ordinateur, c'est complètement ridicule. Donc ça, c'est cette image-là popularise cette diabolisation des hackers, et si j'ai un message à faire passer, c'est que non, il faut pas avoir peur, faut avoir confiance, faut s'intéresser aux hackers, on a besoin de hackers, c'est eux qui vont nous sauver.
Pour aller dans votre sens, je renvoie les auditeurs vers un excellent essai de Michel Lallemand qui s'appelle L'âge du fer, et qui montrait comment justement l'esprit du hacking développé aux États-Unis, c'est aussi un esprit de faire les choses et qui change la façon de travailler, de collaborer les uns avec les autres. Voilà, il fallait le dire, pardon pour cet abus de langage, Nathalie Devilliers, sur ce que vient de dire Jean-Marc Manac et ce que vient de dire aussi Daniel Ventre. On pourrait s'interroger, comme je le faisais, est-ce que les démocraties sont aussi bien outillées que des États plus autoritaires face à ces menaces cyber, oui ou non?
C'est une question facile que vous me posez là.
36 ans.
C'est tombé sur moi en plus. Moi, ce que je voudrais surtout faire comprendre à nos auditeurs, c'est qu'effectivement, il faut avoir conscience de la menace, mais ne pas vivre dans la crainte. Et au contraire, s'intéresser, vous disiez, télécharger des mises à jour, télécharger aussi les mises à jour sur vos téléphones. Par définition, s'il y a des mises à jour, c'est qu'on est en train de patcher des vulnérabilités. Donc faites-le. Et puis, faites des choses simples, des mots de passe robustes, arrêtez de mettre des photos trop sur Facebook, devenez les Alice et Bob cet été et passez au chiffrement. Ça peut être sympa.
Vous installez Signal sur votre téléphone, ça prend 30 secondes. Et le logiciel est Signal, donc ça permet d'envoyer des SMS et des appels téléphoniques chiffrés. C'est extrêmement simple à utiliser. Et là, même si c'est intercepté, ça peut pas être déchiffré.
Voilà quelques conseils simples pour nos auditeurs qui vont pouvoir, pendant les vacances, s'entraîner au hacking. C'est bon, j'ai bien dit, Jean-Marc Manac.
Ouais, non, mais moi, je me définis comme journaliste hacker parce que j'ai la façon de penser. C'est des bidouilleurs, c'est des gens, on essaye de trouver l'information et l'information souvent elle est disponible.
Eh bien très bien, merci à tous les trois, je pense qu'on a pu éclairer un tout petit peu nos auditeurs. On a commencé par leur faire peur et puis à la fin on leur a dit un petit peu comment ne pas avoir peur, donc c'est absolument formidable. Merci beaucoup Nathalie Devilliers, Daniel Ventre et Jean-Marc Manac. On va mettre sur notre page web toutes les informations qui permettent d'aller un petit peu plus loin et de lire vos articles, vos livres et peut-être même votre bande dessinée, Jean-Marc Manac. Il me reste à remercier l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission: Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Montilly. À la réalisation ce soir, c'était Anne-Laure Chanel. À la prise de son, on avait Pierrick Monsigny.